samedi 23 octobre et c'est les vacances pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes nombreux à partir, on en parlera dans l'heure qui vient avec un spécialiste du tourisme. À 7h20, Michel Chevalet et le climat à la veille de la COP26 avec cette question. Le changement climatique nous a-t-il embarqué dans un voyage sans retour? Et puis à 7h50, avec Céline Géraud, vous verrez que les réseaux sociaux deviennent fous. Trump crée le sien et le fondateur de Facebook va nous faire évoluer dans un monde virtuel en 3D plus vite que vous n'imaginez encore. Bon réveil quand même à vous. On est ensemble pour 2 heures d'infos en direct avec bien sûr Elisa Lukavski, toujours fidèle au poste. Bonjour, bonjour Elisa. Et pour notre débat, juste après le journal à 7h10, on accueille Arnaud Benedetti et Jackie Isabello. Bienvenue. Bonjour. À tous les deux, voici les titres de ce samedi matin. Nous reviendrons sur ce chèque de 100 euros pour 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois. L'opposition dénonce un cadeau électoral de Macron. Nous verrons comment réagissent ceux qui gagnent à peine plus de 2000 euros. La course à l'Élysée se complique sérieusement pour les candidats à gauche. Les sympathisants demandent une union, mais sans y croire. Anne Hidalgo, dans ce contexte, la candidate du PS, va essayer de donner un nouvel élan à sa campagne aujourd'hui à Lille. Et puis pas de vacances pour les vaccins. Il y a la troisième dose de Covid, mais aussi le vaccin contre la grippe qui commence plus tôt que prévu. Les deux vaccins peuvent être effectués le même jour. Illustration dans une pharmacie dans ce journal. Avant de développer ces titres, cette attaque au couteau hier soir à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, lors d'un banal contrôle de police, Elisa.
Un homme armé d'un couteau a menacé des policiers avant d'être abattu. Le trentenaire n'était pas connu pour radicalisation. Une information judiciaire est ouverte. Si le parquet antiterroriste n'est pas saisi pour le moment, il reste informé de l'affaire. Reportage de Solène Boulan, Alice Delage et Anthony Favalli.
Il est 18h20 ce vendredi. Un homme se rapproche d'un groupe de policiers. Il leur lance une bouteille, puis sort un couteau et les menace au cri d'Allah Akbar. Les agents ouvrent le feu. L'individu est touché au bassin et décède de ses blessures. Certains riverains, témoins de la scène, ne semblent pas surpris.
C'est un quartier compliqué, donc c'est les quatre chemins, donc il y a beaucoup de violence.
C'est le quartier qui est comme ça, est sensible. Le quartier est dur, la ville est dure. Colombes, c'est ça Colombes.
L'individu est un homme de 31 ans, né en France. Il est connu des services de police pour des faits de droit commun, mais inconnu du FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, apporte son soutien aux forces de l'ordre.
Je salue le sang-froid des policiers de Colombes qui ont neutralisé un homme les menaçant avec un couteau. Plus que jamais, nous devons rester vigilants et plus que jamais, les forces de l'ordre sont en première ligne. Merci pour leur courage.
La police judiciaire des Hauts-de-Seine a été saisie de l'affaire, ainsi que l'IGPN, la police des polices.
Éric Zemmour continue son tour de France en Normandie. Il est attendu à Caen aujourd'hui après un passage à Rouen hier devant une salle un peu plus clairsemée que le week-end dernier lorsqu'il était dans le sud.
Oui, près de 1000 personnes qui étaient réunies pour écouter l'écrivain et le polémiste Éric Zemmour qui, selon un nouveau sondage Ipsos pour Le Monde, est donné au deuxième tour de la présidentielle avec 16% des intentions de vote au premier tour. Sur place, Gauthier Lebret.
C'est dans cette salle du Zénith de Rouen qu'Éric Zemmour a tenu un discours sur la politique étrangère et l'international. Mais le son qui restera de sa journée ici à Rouen, c'est celui où il déclare qu'il est le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron, car il est le seul qui fait le lien entre la bourgeoisie et les classes populaires. Une réaction suite à un sondage qui le place une nouvelle fois au deuxième tour. Je vous propose de l'écouter à notre micro avec Sacha Robin.
Marine Le Pen est enfermée dans une seule sociologie. La classe populaire, ouvrier, où elle est très populaire, mais elle ne sort pas de cette sociologie-là et elle n'atteint absolument pas les gens qui gagnent mieux leur vie, qui sont des CSP+. Ah, par ailleurs, les candidats LR, quels qu'ils soient, ne sont absolument pas entendus par les classes populaires. Ça confirme ce que je dis depuis le début. Marine Le Pen ne peut pas gagner parce qu'elle est enfermée dans une seule type de sociologie. LR ne peuvent pas gagner parce qu'ils sont enfermés dans un seul type de sociologie. Le seul qui peuvent battre Emmanuel Macron, c'est ceux qui allient les classes populaires et une partie de la bourgeoisie. Et donc je suis le seul.
Et pour la première fois depuis le début de son tour de France, la salle où il s'exprimait n'affichait pas complet. Une centaine de sièges étaient libres. Alors il y avait tout de même 1 millier de personnes, mais ça contrastait avec les salles de Nîmes et Béziers où des centaines de personnes sont restées bloquées à l'extérieur car les salles étaient complètes.
L'indemnité inflation annoncée cette semaine par le gouvernement, c'est un coup de pouce pour 38 millions de Français, mais cette prime est vécue comme une injustice pour beaucoup d'entre eux.
Oui, parce que de nombreux automobilistes ne vont pas y avoir droit. Elle pénaliserait, selon certains, ceux qui parcourent beaucoup de kilomètres et qui gagneraient un petit peu plus que 2000 euros par mois. Reportage avec un automobiliste qui est justement dans cette situation, Antoine Estève.
Eric a 51 ans, il va au travail en voiture tous les jours à l'autre bout de Bordeaux. Avec la hausse actuelle du prix de l'essence, il dépense entre 150 et 200 euros en plus chaque mois.
Je fais à peu près 50 km, 50 à 60. De prendre que mon véhicule.
Eric gagne un peu plus de 2000 euros par mois, donc il ne touchera pas la prime gouvernementale et il considère que c'est une injustice.
On va favoriser les gens qui font peut-être très peu de kilomètres, tout ça, et des gens comme moi qui avons besoin pour le travail et qui sommes juste un petit peu au-dessus, on ne va pas en profiter, donc on va être pénalisé.
Les associations d'automobilistes sont vent debout contre cette mesure. Selon eux, elle est discriminatoire et ne tient pas compte des besoins de chacun. François Allary est directeur de l'Automobile Club du Sud-Ouest.
Ça nous paraît une mesure particulièrement injuste. La majorité des pays européens ont l'essence moins chère que nous, c'est-à-dire qu'ils taxent moins le carburant. L'État français taxe trop le carburant. Et il faut le dire, et il faut l'affirmer, il faut le répéter.
Si elle reste réservée à ceux qui gagnent moins de 2000 euros, cette prime devrait concerner 38 millions de Français dans les 3 prochains mois.
Aux États-Unis maintenant, l'enquête se poursuit au lendemain de ce drame incompréhensible sur le tournage d'un western.
Oui, l'acteur américain Alec Baldwin qui a tué la directrice de la photographie et blessé le réalisateur du film Rust qu'il tournait après avoir utilisé une arme qui était censée être chargée à blanc. Dévasté, l'acteur a dit pleinement coopérer avec la police qui tente toujours d'établir les causes de ce drame.
Le sport maintenant et ses nouveaux incidents, encore une fois, en Ligue 1, ça s'est passé sur le terrain de Saint-Etienne à Geoffroy Guichard.
Oui, des débordements de supporters et des jets de fumigène sur la pelouse qui ont repoussé le coup d'envoi d'une heure. La rencontre a finalement pu avoir lieu sous haute protection avec une armada de CRS. Ils étaient menés de 2 buts par Angers, les Verts, qui ont finalement arraché le match nul. De partout après des réalisations de Cazeri et de Nadé au bout du temps additionnel. Saint-Etienne qui n'a, je vous le rappelle, pas remporté le moindre match cette saison. Il reste Lanterne Rouge, son adversaire du soir Angers est 4e. Petit programme aujourd'hui à suivre à 21h sur Canal+, décalé le match entre Lille et Brest.
Eh bien merci pour ce petit programme annoncé de bonne humeur. Elisa, on vous retrouve à 7h30. Un coup d'œil sur notre météo maintenant avec vous, Karine Durand. Bonjour Karine.
Bonjour.
Quel est le programme ?
Un temps calme, anticyclonique, un petit peu frais quand même ce matin pour ce début des vacances. Avec attention pour ceux qui prennent la route, attention aux brouillards qui sont très présents sur la moitié nord et surtout en direction de la Champagne, Ardennes ou encore de la Lorraine. Ils vont se dissiper ailleurs assez rapidement. Belles éclaircies sur l'arc atlantique, un petit peu de vent modéré, Mistral et Tramontane sur la Méditerranée. Au cours de l'après-midi, ça se dégage progressivement avec de belles conditions et des températures qui deviennent également assez agréables. 15 du côté de Paris, 18 pour Bayonne, de la douceur sous le soleil, Ajaccio, 24 degrés.
Merci, avec des infos comme ça, vous revenez quand vous voulez, Karine. Tout de suite, le débat. h 08 dans la matinale week-end, face à face ce matin, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Jackie Isabello, communicant politique et fondateur de l'agence Coriolique. Rebonjour à vous deux. On va commencer par cette indemnité inflation qui fait débat. Tous les Français ne sont pas très satisfaits de cette mesure. On vient de le voir dans le journal. C'est en tout cas la réponse qu'a choisi le gouvernement face à l'inquiétude sur le pouvoir d'achat. L'État qui met à nouveau la main à la poche, près de 4 milliards d'euros pour financer cette indemnité. Bonjour Emma Guessel, on a l'impression que ça dépense un peu à tout va en ce moment.
Et oui, rien que pour pour le pouvoir d'achat des ménages, 10,2 milliards d'euros supplémentaires ont été débloqués. À ces quasiment 4 milliards d'euros d'indemnités inflation viennent s'ajouter plus de 6 milliards d'euros de mesures dédiées à compenser la hausse des prix de l'énergie. À cela s'ajoutent encore d'autres dépenses comme la formation des salariés et des demandeurs d'emploi, le soutien des travailleurs indépendants ou encore l'aide promise aux agriculteurs en cas de catastrophe climatique. À 6 mois de la présidentielle, le gouvernement met donc la main au portefeuille avec, selon le Figaro, plus de 25 milliards de dépenses nouvelles engagées.
25 milliards de dépenses nouvelles. Merci beaucoup Emma pour ces précisions. On est très loin de cette rigueur d'Emmanuel Macron du début de quinquennat. On se souvient qu'il parlait d'un pognon de dingue concernant les aides sociales. C'est un cadeau Noël ou un cadeau électoral, Arnaud Benedetti ?
Ça sera interprété selon le point de vue où l'on se place comme un cadeau électoral si l'on est dans l'opposition ou du côté de la majorité comme une nécessité liée à une urgence de la situation. Si vous voulez, ce qui aujourd'hui légitime les mesures qui ont été annoncées par Jean Castex, c'est qu'en effet, un certain nombre de Françaises et de Français se trouvent en difficulté du fait tout simplement qu'ils ont besoin de leur véhicule, ne serait-ce que pour aller travailler ou aller faire leurs courses. Donc c'est une nécessité. Et il y a surtout quand même ce qui pèse fortement, me semble-t-il, dans les prises de décision de l'exécutif, assez rapide in fine quand même, malgré tout, même si l'opposition a parfois critiqué la lenteur, c'est bien évidemment ce que l'exécutif a vécu il y a maintenant 3 ans avec la crise
des gilets jaunes.
Donc il faut éviter, si vous voulez, une crise sociale à quelques mois d'une échéance politique majeure, donc on garrotte au maximum. En effet, mais bon, on voit que ça pose des questions, qu'un certain nombre d'associations considèrent que ces mesures sont insuffisantes.
Il y a des Français qui estiment, oui, que ça ne fait pas beaucoup finalement à l'arrivée. Et puis, pour ceux qui le touchent, mais il y a ceux qui sont juste au-dessus des 2000 euros et qui se sentent injustement lésés. Jackie Isabello, cadeau Noël ou cadeau électoral ? Comment est-ce que c'est perçu ?
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de se dire... Valérie Pécresse parle de gouvernement qui crame la caisse, Éric Coquerel parle de prime de la trouille. Et c'est vrai qu'on se demande, alors que les Français devraient être heureux et le gouvernement devrait être satisfait parce que la reprise s'engage, que la ligne politique et la ligne économique n'est absolument pas claire.
Ça fonctionne par à-coup.
Ça fonctionne par à-coup et c'est perturbé en sens par une campagne électorale qui elle-même dispense des messages qui incitent le gouvernement à en faire toujours un peu plus. Et politiquement, c'est vrai qu'on a du mal un peu à voir si Emmanuel Macron s'inspire de l'économiste Daniel Kahneman, c'est-à-dire qu'à chaque comportement, eh bien, il essaye de répondre à l'insatisfaction des Français, ou s'il poursuit pour travailler jusqu'au dernier quart d'heure, comme il aime à le dire, en tant que dirigeant du gouvernement, on ne le voit pas. Et donc, mécaniquement, les oppositions et les Français seront incités à être dans une logique du toujours plus. Est-ce que demain, parce que j'ai un téléphone portable et que forcément le prix va augmenter puisque les composants n'arrivent pas par les bateaux, on va avoir une prime téléphone portable? Vous voyez, cet aspect-là, il est très compliqué à gérer. Et puis, il va être encore plus compliqué pour Emmanuel Macron qui va finalement vivre dans une situation très schizophrénique parce qu'à partir de début janvier, il va se retrouver, pour faire simple pour les gens qui nous écoutent, patron de l'Europe. Donc l'Europe a eu quand même une doctrine économique
et financière. Et vraisemblablement candidat aussi.
C'est ça. Même si elle rediscute des critères de bonne gestion, eh bien, il faut quand même qu'elle l'explique à ses petits camarades, la manière dont elle tient la caisse. Et de ce point de vue-là, eh bien, on a du mal à le percevoir. Et ça n'est pas les énièmes lois de finances rectificatives qui donneront un peu plus de clarté à la fois aux gens, mais également à nos partenaires européens.
Arnaud Benedetti, c'est tenable ces accélérations, ces mains à la poche systématiquement.
Il y a deux choses, si vous voulez. Entre-temps, il y a un enjeu qui est en train de s'inviter dans le débat public et dans la pré-campagne présidentielle que nous sommes en train de vivre, et on l'a vu dans un certain nombre d'études d'opinion, c'est la question du pouvoir d'achat. On voit que l'enjeu est devenu aujourd'hui un enjeu particulièrement saillant qui illustre notamment, entre autres, ces augmentations du prix de l'énergie que l'on a vu, électricité, gaz et maintenant carburant.
Ça vient contrer le bilan qu'Emmanuel Macron voulait mettre en avant.
Mais l'autre sujet fondamental, c'est que si vous voulez, Emmanuel Macron ne s'est pas fait élire sur la feuille de route qu'il est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'il s'est fait élire sur une feuille de route qui était quand même très orthodoxe sur le plan économique avec une maîtrise justement des dépenses budgétaires. Et ça va poser un problème politique parce qu'il a une partie en tout cas de son électorat, de la sociologie de son électorat, qui est très attaché à cette question de la maîtrise de la dette. En la matière, on voit que malgré tout, maintenant, depuis finalement la crise sanitaire, et même déjà avec la crise des Gilets jaunes, on a vu un exécutif qui a lâché du lest considérablement sur ce sujet-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, 119% du PIB est adossé malheureusement à la dette. Donc il y a en tout cas un sujet véritablement politique pour Emmanuel Macron, à la fois vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis surtout de ce qu'était son logiciel politique.
Il a complètement changé de cap et ça lui sera reproché.
Si on le comparait à un citoyen lambda, il est clairement dans une mécanique de surendettement. Il va chez Sofin machin, on ne va pas donner de marque, et à chaque fois, il souscrit une dette supplémentaire en disant « je la réglerai dans 90 jours et on verra ce que ça va donner ».
Ça veut dire que ce sont les Français à terme qui paieront cette dette qu'on est en train de contracter.
Eh bien, alors déjà, un, c'est avec votre argent et c'est avec le mien.
Celui des contribuables.
Sur les sujets de l'énergie, on sait très bien que ça n'est pas comme ça qu'il faut engager la France et le monde dans une politique qui soit solide, une politique qui prenne en compte, et Michel Chevalet en parlera sûrement, le réchauffement climatique. Et donc tous ces aspects-là, Arnaud Benedetti a raison de le dire, ça n'est pas un bon message pour son électorat, plutôt centre-droit, qui est très attaché à ces sujets. Et surtout, pour les gens qui vont se poser la question, vais-je remettre une pièce dans la machine? Est-ce qu'Emmanuel Macron, finalement, porte ce qu'il a vendu jusque-là, c'est-à-dire une forme de rigueur, celle d'un inspecteur des finances qui, au début de sa carrière, était chargé d'aller dans les administrations pour dire « Cher monsieur le directeur, cette dépense est injustifiée, vous ne la referez pas l'année prochaine », puisque c'était ça son premier travail.
Il nous reste quelques minutes, messieurs, pour parler de la gauche, toujours éparpillée, au grand dam des sympathisants. Ce sondage Ipsos Soprasteria pour Le Parisien indique qu'ils sont 66% des sympathisants à vouloir une candidature unique, mais ils sont tout aussi nombreux à penser qu'elle n'existera pas. Il n'y aura pas de candidature unique pour la gauche,
Arnaud Benedetti. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de construire les conditions d'unité pour la gauche, tout simplement parce qu'il n'y a pas un candidat ou une force politique qui est hégémonique. Finalement, la gauche a toujours pu construire son unité lorsqu'il y avait quand même, d'une certaine manière, dans le rapport de force à l'intérieur des forces de gauche, une force de gauche qui était largement dominante. C'était le cas avec le Parti Socialiste, qui a dominé la gauche et l'histoire de la gauche ces 30 dernières années. Là, quand on regarde les sondages, on voit
c'est que... C'est 5% pour Anne Hidalgo, lancer sa campagne
oui, aujourd'hui. Enfin, les offres politiques entre Mélenchon et Jadot qui sont entre 8 et 11% selon les sondages et Anne Hidalgo qui a du mal à décoller entre 5 et 6%, il n'y a pas un écart tel qu'un de ces candidats peut s'imposer. Donc ça crée en effet cette situation aujourd'hui d'inertie pour la gauche et le fait surtout que la gauche est très faible en termes d'étiage politique aujourd'hui puisqu'elle est, quand on additionne l'ensemble des forces, entre 25 et 28%.
Ça vaut cette formule acerbe de François Hollande qui parle de candidature lilliputienne, Jacqui Isabello.
Et puis, pour compléter ce que dit Arnaud Benedetti, c'est même d'un point de vue doctrinal, la gauche est empêchée sur tous ces sujets. Sur la laïcité, on voit bien que personne n'est d'accord. Bon, sur l'économie, on voit bien que ça part dans tous les sens.
Et sur l'écologie aussi.
De la sécurité, eh bien, ils ne sont pas mis d'accord. Et sur le sujet de l'écologie, eh bien, vous avez une dissonance cognitive qui s'est créée sur la candidature d'Anne Hidalgo parce qu'elle est très écolo. À Paris, et pour les gens qui aujourd'hui souffrent d'une augmentation du prix de l'énergie, eh bien sa candidature, elle n'exprime absolument pas la candidature de défense du pouvoir d'achat, qui est quand même classiquement une candidature de gauche.
Alors justement, Anne Hidalgo, ce qui lui est plus reproché, c'est de ne pas comprendre les Français qui vivent ailleurs qu'à Paris.
Oui, parce qu'elle souffre de l'image d'être la maire de Paris, d'être la maire d'une sociologie très spécifique. Le problème d'Anne Hidalgo, ensuite, il est, si vous voulez, vous avez deux candidats qui sont à peu près sur la même offre politique, c'est-à-dire Jadot et Anne Hidalgo. La réalité, c'est qu'il y a là une zone de chalandise qui fait qu'ils sont faibles et qu'ils n'arrivent pas l'un et l'autre, finalement, à être particulièrement dominants dans cette zone de chalandise. Donc aujourd'hui, Anne Hidalgo, en effet, sa difficulté, c'est de pouvoir faire démarrer sa campagne. On voit que sa campagne n'a pas démarré pour l'instant.
Elle va tenter, hein, auprès de Martine Aubry, aujourd'hui,
Elle a le soutien d'un certain nombre de caciques du Parti Socialiste, mais le problème, c'est que le Parti Socialiste est devenu essentiellement un parti de notables. Ce n'est plus aujourd'hui un parti de militants, un parti de masse, comme il le fut il y a maintenant une trentaine d'années.
Tactiquement, elle a du mal à faire exister. Regardez sa mesure phare sur l'augmentation des salaires des professeurs. Eh bien, elle ne l'a pas fait vivre. Ils ne l'ont pas budgété. Et ensuite, ils ne sont pas allés la vendre sur les plateaux de télé, dans les journaux, auprès des Français. Donc, cette mesure, hein, pour reprendre une formule célèbre, elle a fait pchit avant d'être lancée.
Merci beaucoup, Jacqui Isabello, communicant cadre politique et fondateur de l'agence Coriolink. Et merci également à Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Dans un instant, Michel Chevallet nous dira ce qu'il se passe vraiment avec le climat en ce moment. Est-ce que les secousses que nous vivons sont irréversibles? On verra si la COP26, qui commence bientôt à Glasgow, est vraiment utile. À tout de suite.
La matinale week-end, CNews, Europe 1, Isabelle Moreau.
– 7h25, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la matinale le week-end et bienvenue à vous Michel Chevallet. On parle d'un sujet de préoccupation énorme pour toute la planète, c'est le réchauffement ou le changement climatique. Coup d'envoi de la COP26 à Glasgow la semaine prochaine. On se souvient que la COP21 qui s'était tenue à Paris avait donné comme objectif de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement à l'horizon 2100. Mais là Michel, on parle de 2,5, 2,7 voire 3 degrés. Ça veut dire que la COP21 n'avait déjà servi à rien à l'époque ?
Oui, je veux dire, une réponse de Normand, oui et non. Oui, c'était un succès médiatique, c'est bien évidemment, et un succès politique. Non, parce que, aussitôt ratifié, était déjà dépassé. Pourquoi ? Pourquoi 1,5 degré ? Les scientifiques du GIEC disaient 2 degrés, et encore. Et là, comme il fallait l'unanimité pour ratifier ça, et que les pays en voie de développement disaient non, nous on va être submergés, il va y avoir la désertification, il faut 1,5 degré. Pour qu'ils puissent voter. Eh bien, on a dit, va pour 1,5 degré. Mais on savait déjà qu'en prenant comme objectif 1,5 degré à l'horizon, à la fin du siècle, ça ne servait à rien. Moi, je dirais, la COP de Paris n'a servi à rien.
Alors, 1,5 degré, ça, on oublie parce que ça sera plus, évidemment. Donc, qu'est-ce qui nous attend ?
Alors, les experts du GIEC et puis les scientifiques du CNRS, qui ont eu une conférence de presse hier, où j'y étais, ils disaient, attendez, si on ne change pas les choses, on va y revenir, sur ce qui se passe aujourd'hui, eh bien on va vers 2, 2,5, 2,7 et même 3 degrés. Et
avec les 3 degrés quand ? En 2100 ?
Oui, 2100. Mais même, des fois, les scientifiques disent attention, en 2050, c'est-à-dire dans 30 ans, on risque d'avoir déjà 2 degrés. Moi, je dirais, on va dans le mur.
Mais pourquoi est-ce que ça s'emballe comme ça, Michel ?
Alors, pour deux raisons. La première, c'est que les États, disons, ont un double langage. Ils disent, voilà, on va faire des efforts, on va décarboner, etc. Puis, en fait, dans la réalité, ils ne le font pas. Simplement, juste un chiffre. La consommation d'énergie devrait baisser de 3% par an. Mais non, elle augmente de 2%.
Et le prix aussi augmente.
Mais oui. Et on relance la consommation de charbon, on relance la consommation de gaz. Et qui dit augmenter la consommation, dit gaz carbonique, etc. Et puis la deuxième chose, n'oubliez pas, c'est l'énormité des demandes en énergie. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous donner juste un chiffre à retenir de notre entretien. Chaque jour, la Terre, la planète Terre, consomme 95 millions de barils de pétrole. Alors, barils de pétrole, moi, je ne sais pas ce que ça me fait, 95 millions de barils. Si je mets ces fûts de barils les uns côté des autres, je fais le tour de la Terre.
Et ça, c'est chaque jour ?
Chaque jour !
Bon, ça veut dire que la partie est perdue d'avance.
Alors, je crois qu'on va avoir de sérieux problèmes. Mais parce que, comme on continue à consommer de l'énergie, on va rejeter du gaz carbonique, l'accélération de la fonte des glaciers va continuer, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des inondations, etc.
Voilà. On constate quotidiennement, pas plus tard que cette semaine en Bretagne, par exemple.
Voilà, donc il faut continuer à décarboner la société, s'investir, ça va être très long. Mais, je crois, et c'est ce que disent les scientifiques, ils disent, il faut investir maintenant dans ce qui va arriver, c'est-à-dire modifier ce que l'on peut modifier. Schématiquement, il faut reboiser, schématiquement, il faut refaire des polders. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer, retroussons nos manches. Et le dernier point, j'espère que la COP26 va servir à quelque chose.
Merci beaucoup Michel Chevallet, on suivra cette COP26, évidemment, avec vous à Glasgow.
Europe 1, CNews, la matinale week-end. Isabelle Moreau.
Le rappel des principaux titres de ce samedi 23 octobre avec vous, Elisa Lukavski, et cette campagne vaccinale contre la grippe qui vient de débuter.
Les personnes de plus de 65 ans et celles qui sont atteintes de certaines pathologies peuvent se faire vacciner gratuitement contre la grippe saisonnière. Une campagne dans un contexte sanitaire toujours marqué par l'épidémie de Covid-19. Clémence Barbier et Fabrice Elsner.
Piquez, monsieur le pharmacien.
Laurence, 74 ans, est l'une des premières patientes à se faire vacciner contre la grippe.
Mais ça en douceur. Hein.
Oh. Toujours.
Cette année, elle a profité du lancement de cette campagne vaccinale pour faire le rappel d'un autre vaccin.
J'ai ma troisième dose de Pfizer avant-hier. Ah bah je fais tout en même temps. Et alors la troisième dose, je vais vous dire, comme disent les jeunes, même pas mal.
Comme elle, les personnes de plus de 65 ans ou à risque étaient nombreuses hier matin à combiner une double injection anti-grippe et anti-Covid-19.
Ils vont me faire le vaccin du Covid, le Pfizer, je ferai en même temps le contre la grippe.
J'ai fait ma troisième dose cet après-midi et le vaccin contre la grippe, donc je vais attendre 3 semaines pour le faire après, quoi.
Mais est-ce possible de se faire vacciner simultanément contre les deux maladies? Oui, selon Ambre, pharmacienne.
On leur dit qu'il n'y a pas de problème de faire la vaccination de la grippe et du Covid. Si on attend un petit peu, une semaine, 10 jours, ça suffit pour pas que, immunitairement parlant, ce soit un peu trop chargé.
Voilà, même pas mal.
Les Français de moins de 65 ans pourront se faire vacciner contre la grippe à partir du 22 novembre.
Marine Le Pen était en déplacement à Bruxelles hier.
Au programme pour la candidate du Rassemblement national, une rencontre avec le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki. Marine Le Pen qui en a profité pour tacler à distance Éric Zemmour. Troisième dans les intentions de vote derrière le polémiste, la candidate affirme qu'il ne sera pas au second tour de la présidentielle. Pourquoi? Eh bien voici sa réponse.
Ce qui fera qu'il ne sera pas président de la République française et qu'il ne sera pas en situation de l'être, c'est que lorsqu'on aspire à être président de la République française, on aspire à être le président de tous les Français. Et pas seulement de cette fameuse bourgeoisie dont il parle régulièrement et qui semble être sa cible électorale.
Il n'y aura pas de mur de financement, pardon, de mur anti-migrants aux frontières de l'Union européenne.
Oui, c'est ce qu'a déclaré hier Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. L'Union européenne ne financera pas de barbelés et de murs pour empêcher les arrivées de migrants. 12 pays, dont la Lituanie ou encore l'Autriche, avaient réclamé de telles mesures. Une décision qui intervient alors même qu'on a appris le décès d'un migrant jeudi à Calais après avoir été blessé dans une zone de stationnement de poids lourds. Chaque année dans la ville, environ 2 millions de poids lourds traversent la Manche. Au péril de leur vie, les migrants sont nombreux à tenter de monter à bord. Le récit de Kinson.
À Calais, les candidats au départ sont nombreux. Un migrant réussit à monter in extremis dans un camion, direction le tunnel sous la Manche. Mais depuis plusieurs mois, il est de plus en plus difficile de passer entre les mailles du filet, constate Emma, militante de l'ONG Human Rights Observers.
Il y a énormément de surveillance, des scanners entiers, des chiens. Donc la police aux frontières aussi est partout et patrouille à Calais.
Sous la pression du gouvernement britannique, le port et les routes sont protégés. L'intensification des contrôles douaniers ne décourage pas les migrants qui guettent les camions et risquent leur vie pour monter à bord. Le mois dernier, un mineur soudanais a été retrouvé mort après avoir chuté d'un poids lourd. Pour Emma, militante de l'ONG Human Rights Observers, il n'y a aucune prise en charge des autorités.
Ces personnes-là ne seront pas du tout prises en charge par les gendarmes ou par la police. Elles risquent l'hypothermie, tout simplement.
5 ans après le démantèlement de la jungle de Calais, sur le littoral du nord de la France, des centaines de migrants, dont de nombreuses familles, y campent toujours, dans l'espoir de passer en Angleterre.
On l'a appris dans la nuit, l'armée américaine annonce avoir tué un dirigeant d'Al-Qaïda.
C'est une frappe de drone dans le nord de la Syrie qui aurait tué le haut dirigeant Abdulhamid Al-Matar. Le porte-parole du commandement central de l'armée américaine a précisé qu'il n'y avait pas eu de victimes civiles suite à cette frappe. Il s'agit du deuxième chef de groupe terroriste éliminé en moins d'un mois en Syrie.
En Angleterre, l'inquiétude autour de la santé de la reine Elisabeth II, qui a passé une nuit à l'hôpital cette semaine, et ça inquiète évidemment ces sujets.
Tout le monde, effectivement. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir annulé une visite en Irlande du Nord qu'elle a effectuée ce séjour à l'hôpital à Buckingham Palace. On s'est empressé de rassurer la presse et toute la population, Kinson et Emma Guessel.
Officiellement, la reine a repris ses activités au palais de Windsor. Sa visite à l'hôpital était une simple précaution. Alors que la monarchie cultive le silence, le peuple retient son souffle.
Elle est bien sûr très importante pour nous ici à Windsor.
On espère qu'elle va régner encore très longtemps.
Eh bien, nous sommes toujours inquiets, vous savez, à cet âge, mais elle a tellement d'endurance, c'est une femme merveilleuse.
La monarque de 95 ans est connue pour sa santé de fer. Mais pour ces sujets, il y a des détails qui ne trompent pas. Il y a quelques jours, Elisabeth II a été aperçue marchant avec une canne dans les rues de Londres. Chacun y va de son diagnostic.
Elle a 95 ans, elle se sert d'une canne, donc c'est clair qu'elle devient un peu fragile.
La famille royale a de bons gènes. Sa mère était très vieille quand elle est morte, plus de 100 ans.
Au palais de Buckingham, on se veut rassurant. La reine est toujours attendue à la COP26 de Glasgow en Écosse, au début du mois prochain. Une chose est sûre, ce déplacement sera particulièrement scruté par ses sujets.
Merci Elisa Lukaski, on vous retrouve pour un journal complet à 8h. Comme promis, on parle de vos vacances qui commencent maintenant pour certains d'entre vous, les vacances de la Toussaint. Avec nous Patrick Visseria, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'Association française des experts en tourisme. Pardon ?
Président.
Président, ben oui, carrément président, pardon. Les Français rêvent de vacances, ils sont nombreux à partir. On va voir où et dans quelle proportion et puis avec quels moyens aussi, parce qu'il y a la question du pouvoir d'achat, bien sûr. Mais d'abord, ce reportage dans le Luberon, il est signé Inès Alicon et Stéphanie Rouquier.
Entre le massif des Alpilles et le Luberon, le village de Malemort, avec ses 5800 habitants et ses milliers de touristes, à 5 km du centre historique, le hameau de Pont-Royal propose près de 1000 logements à la location. Véronique Bridet, responsable d'agence.
On est à 60% du remplissage actuellement et c'est pas fini, c'est en train de monter en puissance. Et puis la météo est avec nous, donc les gens réservent beaucoup en dernière minute.
Ça va finir complet ?
Ça devrait.
Et c'est une tendance nationale. Avec la pandémie, pour ces vacances de la Toussaint, les destinations campagne connaissent un réel engouement. Plus 60% de réservations, selon Véronique Bridet.
Ils recherchent surtout la tranquillité. Les gens se recentrent sur la France depuis l'après-Covid, bien sûr. L'avantage de Pont-Royal aussi, c'est que les personnes recherchent des villas indépendantes, des maisons indépendantes où ils peuvent se retrouver en famille.
Ici, tout est prêt pour l'arrivée des vacanciers, des Français en majorité, qui vont pouvoir profiter de l'été indien en Provence.
Patrick Visseria, il y a un vrai rebond pour ces vacances de la Toussaint ?
Alors oui, c'est une très bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme. Tous les indicateurs sont au vert et les réservations des vacances de la Toussaint, donc qui démarrent aujourd'hui, sont en très forte hausse.
Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Alors, il y a d'abord un désir de repartir en vacances.
Oui, ça faisait longtemps pour beaucoup.
Des Français, donc qui restaient très forts. Et même s'il faut faire attention, parce qu'il y a toujours ce risque de reprise de la pandémie, et certaines zones touristiques sont concernées.
Lesquelles, hein, par exemple ?
Par exemple, pour citer les Bouches-du-Rhône, par exemple, quelques départements. Il y a 5% à peu près des départements aujourd'hui qui sont dans situation à risque. Mais c'est 14 millions, d'après le cabinet pro-tourisme, 14 millions de Français qui vont partir. Donc avec une forte augmentation de réservations de dernière minute et des départs à l'étranger qui redémarrent, puisque 20% à peu près des Français devrait partir à l'étranger. Donc ça va permettre de relancer le secteur touristique et de revenir à des niveaux un peu antérieurs à la crise.
C'est ça qui est frappant, c'est cette envie. D'ailleurs, on a vu notre reportage en Luberon, beaucoup de Français vont évidemment rester en France pour les vacances, vont se déplacer à la campagne ou sur les littoraux. Mais il y a aussi cette envie de sortir des frontières. Alors ça, c'est peut-être le pass sanitaire, c'est peut-être justement l'épidémie de Covid qui reflue un petit peu.
Alors quand on regarde, ça va être des vacances franco-françaises, hein, avant tout.
Globalement, c'est ça.
Globalement, des Français vont rester en France. Avec une très forte attirance pour le littoral. On a envie de voir la mer. J'écoutais tout à l'heure les prévisions météo. Elles sont plutôt bonnes pour ces vacances.
Oui, la météo a été maussade en plus cet été. Donc voilà. Il y a peut-être envie de retrouver le soleil.
Là, on s'attend à un temps dans un certain nombre de régions, je ne détaille pas, mais plutôt satisfaisant. Donc ça va attirer du monde. Et donc des départements comme le Morbihan, comme la région Occitanie, la Côte d'Azur, tout ça. On le voit d'ailleurs sur la réservation des hôtels à Nice, on a un fort taux de remplissage dans ces destinations. Et donc ça, c'est un point intéressant.
Et pour les voyages à l'étranger, donc ça augmente aussi.
Alors
et
ça augmente parce qu'il y a une envie de partir à l'étranger, plutôt des destinations proches comme l'Espagne, l'Italie ou ou le Portugal, donc il y a une reprise, la Grèce, voilà. On va rester, mais c'est un redémarrage aussi des Français qui partent à l'étranger.
Le fait qu'il y ait plus de télétravail et donc la possibilité de cumuler les congés et le travail à distance, est-ce que ça joue aussi ?
Alors, la bonne nouvelle, c'est en fait que malgré le maintien, le développement du télétravail, le développement de la visioconférence, eh bien, on voit un redémarrage du tourisme d'affaires, ce qui alimente aussi le fonctionnement des hôtels haut de gamme dans un certain nombre de villes et de métropoles. Il y a aussi un attrait pour les villes européennes. On voit redémarrer les voyages et courts séjours vers des villes européennes. Donc on est dans
c'est Rome, Séville, Lisbonne, par exemple.
Rome, entre autres. Les capitales de l'Est.
Aussi également.
Prix dans les hôtels, dans les locations. Et donc une hausse qui devrait se poursuivre. Pourquoi ? Parce que il y a les mesures, la hausse du coût de l'énergie, les mesures qui ont été prises au niveau sanitaire, la hausse des salaires aussi, dont on parle beaucoup, là, tout ça, et puis peut-être un peu moins d'offres promotionnelles. Tout ça, ça donne du 15% d'augmentation. Donc ça veut dire en face des Français qui vont essayer de faire des économies. Il y a différentes façons. Le budget vacances, c'est 5% du budget des ménages, donc c'est un poste très important.
Merci beaucoup Patrick Visseria. Je rappelle que vous êtes président de l'Association française des experts en tourisme. À suivre le cinéma avec Laurie Choleva, de la très bonne comédie et un nouveau Marvel au programme.
Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
La chronique cinéma avec Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Isabelle.
On va avoir un grand sourire pour commencer cette chronique grâce à vous.
Exactement, quelle transition avec le film Tout nous sourit, petit bijou signé Mélissa Drijard avec Elsa Silberstein, Stéphane De Groot ou encore Anne Benoît et Guy Marchand. C'est un film qui a reçu 3 prix au dernier festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, dont le prix d'interprétation féminine pour Elsa Silberstein, très très mérité. Alors c'est l'histoire d'Audrey et Jérôme, un couple à qui tout sourit. En apparence, ils sont beaux, ils ont des beaux enfants, ils ont des bonnes situations. Elle est animatrice télé, on la reconnaît dans la rue, elle en est très fière. Mais voilà, ils sont infidèles, ils se trompent et ils ont la même et mauvaise idée d'emmener leur maîtresse et amant dans leur maison de campagne le même week-end.
Quelle drôle d'idée.
Ça le fait pas.
Ça va ?
Ça va.
Tu s'embrasses pas, on sait jamais.
La maison de campagne, appartient à mes beaux-parents, on vient tous un peu quand on veut.
Dans quelle pièce t'as jamais fait l'amour avec ta femme ?
Mon amour. Mais c'est qui elle ? Ah, c'est une blague ?
C'est surréaliste.
Ah putain, papa !
Ah, c'est vous !
Je t'en supplie, on leur dit rien.
Oh, vous avez des amis ?
Oui.
Comment on en est arrivé là ?
On en est arrivé là parce que le temps a passé, c'est tout.
Et ben, on n'a plus rien, c'est ça.
Au début, il y a tous les ingrédients du vaudeville, en fait.
Et complètement, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est tellement plus. C'est vraiment une histoire touchante. On ne sait pas si on doit rire ou si on doit pleurer. On voit cette famille qui vole en éclats le temps d'un week-end. Et puis, il y avait des scènes vraiment géniales. Par exemple, une où le personnage joué par Elsa Silberstein pète complètement un câble après avoir dansé sur du Christophe Maé. Regardez.
Moi, je suis une vraie femme, moi. Moi, je passe à la télé. Moi, je fais 15% de parts de marché. Moi, on me reconnaît dans la rue à Paris. C'est pas vrai, Valérie, qu'on me reconnaît dans les rues de Paris ?
Je n'habite pas à Paris, je me rends pas compte.
Oui, bon. Et puis moi, j'ai de beaux enfants. J'ai une super maman. J'ai une super femme. Je suis belle. Je fais du pilates. Je mange plus de viande. J'ai une très belle robe. Elle est belle, ma robe, non ?
J'adore dans cette scène, c'est son ado qui regarde et qui dit c'est gênant là quand même. C'est vraiment très, très drôle et en même temps tragique. Ça parle des liens du sang, des mensonges dans une famille, des non-dits et surtout de l'amour, de la transmission avec énormément de justesse. Petit coup de cœur.
Ah oui, un gros coup de cœur même, j'ai
ouais,
l'impression.
Gros coup de cœur,
tout nous sourit. Une rentrée placée sous le signe des adaptations de Balzac. Hein.
Mais c'est vrai, on parlait de Jenny Grandet il y a quelques semaines. C'est au tour de Xavier Giannoli de s'attaquer à un roman de Balzac en adaptant une partie des Illusions perdues, parce que c'est quand même le roman le plus dense de Balzac. Donc c'est un projet de longue date pour le réalisateur, qui dirige pour l'occasion Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Gérard Depardieu, Cécile de France ou encore Benjamin Voisin.
J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste.
Et tu crois que c'est quoi mon métier ?
Vous éclairez les gens sur l'art. Le monde.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
non, de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Alors on suit l'histoire de Lucien, ce jeune poète provincial qui monte à Paris pour accomplir ses rêves, qui va se brûler les ailes. C'est vraiment une adaptation réussie, emmenée par un casting fougueux. Vincent Lacoste, absolument génial dans le rôle de Louzo, Benjamin Voisin, qu'on avait déjà beaucoup aimé chez Ozon dans Été 85, qui confirme son talent. Et Cécile de France, merveilleuse dans le rôle de cette femme amoureuse engoncée dans son statut de noble. 9 minutes d'applaudissements à la dernière Mostra de Venise et je peux vous dire que c'était très mérité.
Des applaudissements aussi pour vous, Laurie Choléva.
Merci beaucoup,
pour
c'est
cette
gentil,
chronique.
Je prends.
Cinéma.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau.
Et on accueille maintenant dans la matinale week-end Céline Giraud. Bonjour Céline.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Chef du service société à Europe 1. Vous revenez ce matin sur les deux annonces qui ont fait trembler le monde du numérique cette semaine. D'un côté Mark Zuckerberg et de l'autre Donald Trump.
Oui, deux personnages et dans les deux cas, on est dans la troisième dimension. Vous allez comprendre. On commence par Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui a annoncé qu'il allait embaucher 10 000 personnes dans les 5 ans dans l'Union européenne pour développer son nouveau grand chantier, le métaverse.
Mais de quoi s'agit-il, Céline ?
Alors, métaverse, contraction de métadonnées et d'univers, l'universe, c'est une sorte de doublure numérique du monde réel accessible via Internet. Alors, on considère le métaverse comme le Graal hein, des interactions sociales par le boss de Facebook, c'est son idée. Et il s'est largement inspiré du film Ready Player One de Steven Spielberg en 2018, extrait.
Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
L'Oasis, le métaverse, il l'a recréé, Zuckerberg, cette idée. Il a repris le concept et il l'a amélioré. Alors, avec des manettes de jeux vidéo et un casque de réalité virtuelle, vous pouvez évoluer dans un monde en trois dimensions sur mesure. Par exemple, vous pouvez gravir l'Everest avec des copains ou danser en boîte de nuit. Tout ça, quand vos amis même sont à des milliers de kilomètres, eh bien, ce sera possible. Il vous suffit tout simplement, eh bien, de créer un avatar à votre image ou pas, d'ailleurs, et de le décliner dans ces univers, et c'est déclinable à l'infini.
Donc, ce métaverse, il va aussi bouleverser le monde des visios qui est devenu une habitude pendant la pandémie.
Clairement, et vous allez complètement révolutionner votre univers de travail. Vous pouvez reconstituer votre bureau à l'identique. Le nom de code de ce concept, c'est Oculus Horizon Workroom. Les collaborateurs se retrouvent donc virtuellement dans un espace de travail, mais version Ligue des Champions. C'est fini le moment où on clique pour flouter derrière soi, où on met des cocotiers pour faire joli. Là, on est dans un autre truc complètement dingue. C'est évidemment de nouvelles opportunités pour des événements virtuels très lucratifs. Un exemple, le rappeur Travis Scott a enfin son avatar, en fait. Eh bien, il a donné un concert en direct dans le célèbre jeu Fortnite. Plus de 12 millions de joueurs ont assisté à cette expérience interactive unique. Le rappeur est dans un décor mouvant. L'avatar du joueur spectateur, donc vous, peut avec sa manette se déplacer dans la salle, sauter, monter sur scène, bavarder avec des amis en toute tranquillité qui sont eux aussi dans la salle de concert. C'est du sur-mesure et c'est complètement dingue. Ariana Grande, là aussi la chanteuse très célèbre, eh bien, elle a fait la même chose et son nouvel avatar, lui, a été développé jeudi et il fait désormais partie du jeu en ligne. Ariana Grande qui a son avatar dans Fortnite. Et puis petit scoop,
allons-y pour un scoop, Céline.
C'est Aya Nakamura qui va se produire très bientôt dans le métaverse de Fortnite, là aussi. Il s'agit tout simplement de l'artiste française la plus streamée en France et à l'international. Et le magazine Forbes a d'ailleurs élu récemment artiste francophone de l'année.
Le métaverse, c'est vraiment un autre monde. L'autre personnage qui crée l'événement, c'est donc cette semaine Donald Trump.
Oui, c'était jeudi. L'ancien président des États-Unis l'avait annoncé, il l'a fait un peu moins d'un an après avoir été banni des réseaux sociaux Twitter, Facebook. Eh bien, il a créé sa propre plateforme, elle s'appelle Truth Social. Ses fans pourront donc écouter désormais ses vérités et ses punchlines bien gratinées, tout ça évidemment sans censure. Alors l'appli pour information est déjà disponible sur l'Apple Store, elle sera accessible tout début 2022, vous pouvez donc vous enregistrer, être en liste d'attente. Et la promesse de Truth Social, c'est d'être la plateforme de médias sociaux de l'Amérique qui encourage une conversation mondiale ouverte, libre et honnête, sans discrimination d'idéologie politique, on demande à voir. Alors, il veut résister à la tyrannie des géants du numérique, mais il va falloir quand même se bouger, hein, parce qu'on le rappelle, hein, il a, même s'il a 150 millions d'anciens abonnés, est-ce qu'ils vont revenir ? Twitter, c'était carrément 206 millions d'utilisateurs par jour, et Facebook, près de 2 milliards. Alors, est-ce qu'on va voir émerger un nouveau réseau social, ou est-ce que c'est tout simplement pour lui un outil de communication personnelle, puisqu'on le rappelle, hein, il y a les élections présidentielles en 2024, et il n'a pas caché ses désirs de revanche. On verra, à suivre.
On verra. Merci beaucoup, Céline. Si chacun se met à créer son propre réseau social, ça va finir par devenir des réseaux sociaux, cette affaire.
Trousse sociale,
pourquoi pas. Céline Géraud, chef du service Société Europe 1, merci beaucoup, à samedi prochain. Vous restez avec nous, la matinale week-end continue avec un nouveau journal, notre débat au menu, la candidature d'Éric Zemmour, qui semble inéluctable, alors qu'une nouvelle enquête Ipsos le place encore au second tour de la présidentielle. Et puis nous ferons un point sur la toute nouvelle police municipale à Paris. Pour l'instant, les agents non armés ne peuvent pas encore verbaliser. À tout de suite.
Europe 1, CNews, la matinale week-end. Isabelle Moreau.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end. Ne manquez pas dans l'heure qui vient votre rendez-vous santé avec le docteur Brigitte Millot. La grippe débarque, le Covid est toujours là et on peut se faire vacciner contre les deux en même temps. Mathieu Alterman nous parlera, lui, du carton littéraire du moment. C'est le retour de Goldorak. Et puis à 8h40, Jean-Pierre Alcabache recevra Alexandre Najjar, écrivain et avocat libanais, alors que le Liban plonge dans le chaos politique et social. Merci d'écouter Europe 1, il est 8h. Et avec nous sur le plateau, nos débatteurs du matin, Guillaume Bigot et Denis de Montpion. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Mais
bonjour,
d'abord,
bonjour.
Le journal en compagnie d'Elisa Lukaski. Voici les titres de ce samedi 23 octobre, titre dont on parlera évidemment dans le débat tout à l'heure. Messieurs, les jours se suivent et se ressemblent comme les sondages pour Éric Zemmour après Rouen. Il est attendu à Caen aujourd'hui alors qu'un nouveau sondage le donne au second tour de la présidentielle. Le polémiste se rapproche encore un peu plus d'une candidature. Il affirme être le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron. Rarement les rapports entre la police et les jeunes auront été aussi tendus, mais la police municipale de Paris vient d'arriver dans les rues de la capitale. Nous ferons un point sur cette première semaine de test des agents qui ne peuvent pas encore verbaliser. Et puis le début des vacances de la Toussaint, l'occasion de souffler un peu et de profiter du ralentissement de l'épidémie du Covid. Oui, mais les départs en train vers l'Atlantique se compliquent à cause d'une grève à la SNCF. On fera un point complet sur ces vacances dans un instant. Et on commence par cette fameuse indemnité inflation, Elisa, annoncée par le gouvernement. Ce coup de pouce à 38 millions de Français, mais tous ne sont pas contents, notamment ceux qui n'y ont pas droit.
Exactement. De nombreux automobilistes considèrent cette aide comme discriminatoire. Pourquoi ? Parce qu'elle pénaliserait ceux qui roulent beaucoup, mais qui gagnent un petit peu plus que 2 000 euros par mois. Reportage donc avec un automobiliste qui se trouve justement dans cette situation. C'est signé Antoine Estève.
Éric a 51 ans, il va au travail en voiture tous les jours à l'autre bout de Bordeaux. Avec la hausse actuelle du prix de l'essence, il dépense entre 150 et 200 euros en plus chaque mois.
Je fais à peu près 50 km, 50 à 60 de ville et je n'ai pas le choix de prendre que mon véhicule.
Éric gagne un peu plus de 2000 euros par mois, donc il ne touchera pas la prime gouvernementale et il considère que c'est une injustice.
On va favoriser les gens qui font peut-être très peu de kilomètres, tout ça, et des gens comme moi qui avons besoin pour le travail et qui sommes juste un petit peu au-dessus, on ne va pas en profiter, donc on va être pénalisé.
Les associations d'automobilistes sont vent debout contre cette mesure. Selon eux, elle est discriminatoire et ne tient pas compte des besoins de chacun. François Allary est directeur de l'Automobile Club du Sud-Ouest.
Ça nous paraît une mesure particulièrement injuste. La majorité des pays européens ont l'essence moins chère que nous, c'est-à-dire qu'ils taxent moins le carburant. L'État français taxe trop le carburant. Et il faut le dire, et il faut l'affirmer, il faut le répéter.
Si elle reste réservée à ceux qui gagnent moins de 2000 euros, cette prime devrait concerner 38 millions de Français dans les trois prochains mois.
Avant de parler du cas Éric Zemmour, dans notre débat, un point sur la gauche avec ce nouveau sondage Elisa. Les sympathisants veulent une candidature unique, mais ils n'y croient pas trop.
Exactement, c'est ce qui ressort du sondage Ipsos Soprasteria pour Le Parisien de ce samedi, alors que la candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo, peine à décoller dans les intentions de vote. Ce sondage révèle que 66% des sympathisants de gauche sont en faveur d'un candidat commun. Une envie qui reste hypothétique car 64% pensent que la gauche ne se mettra pas d'accord sur ce point. Toutefois, dans l'hypothèse où elle y parviendrait, c'est Jean-Luc Mélenchon qui aurait la faveur des sympathisants à 25% devant Anne Hidalgo à 15%.
Anne Hidalgo qui va tenter de relancer sa campagne aujourd'hui à Lille sur les terres de Martine Aubry. La figure des milieux complotistes Rémi Daillé a encore été mise en examen hier.
La cause des projets de soupçons d'attentats du groupuscule d'extrême droite Honneur et Nation et notamment un attentat contre une loge maçonnique dans l'est de la France. Rémi Daillé est soupçonné être le cerveau de ce groupe projetant des actions violentes. Déjà incarcéré dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia, il a été extrait de sa cellule pour être placé en garde à vue dans ce dossier. Suivi par le pôle antiterroriste du tribunal de Paris, il a été de nouveau écroué.
On part aux États-Unis maintenant avec l'enquête qui se poursuit au lendemain de ce drame toujours incompréhensible pendant le tour tournage d'un western.
L'acteur américain Alec Baldwin a tué une directrice de la photographie et blessé le réalisateur du film qu'il tournait après avoir utilisé une arme qui était censée être chargée à blanc. Dévasté, l'acteur a dit pleinement coopérer avec la police avant qu'il tente d'établir les causes de ce drame. Les précisions de Clémence Barbier.
Impossible d'accéder à ce décor de western à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, bouclé par la police. Le tournage du film Rust a été interrompu après que l'acteur principal Alec Baldwin a mortellement touché par balle Alina Hutchin, la directrice de la photographie, et blessé Joel Souza, le réalisateur. Selon les enquêteurs, il s'agirait d'un accident avec une arme censée être factice ou chargée à blanc. Sur Twitter, l'acteur s'exprime.
Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Alina Hutchins.
La star du cinéma a été relâchée sans poursuite. Selon Guillaume Delouche, armurier pour Hollywood, les protocoles de sécurité n'ont pas été respectés.
Donc c'est le rôle de l'accessoiriste ou de l'armurier d'être bien sûr que l'acteur va utiliser l'arme d'une manière très fluide et c'est à nous de penser à la sécurité, pas à l'acteur.
Des drames similaires se sont déjà produits. En 1993, l'acteur Brandon Lee, fils de Bruce Lee, a lui aussi été tué accidentellement pendant un tournage.
Un sommet européen qui a pris des allures d'adieu pour Angela Merkel hier.
C'était son 107e Conseil européen depuis 2005 et le dernier. La chancelière allemande qui va se retirer de la vie politique à l'issue de son mandat en 2021 a reçu les hommages de nombreux dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron. Elle a profité de cet ultime rendez-vous pour lancer un avertissement à l'Europe, s'inquiétant de sa capacité à relever les défis sociétaux, migratoires et économiques.
Une information pratique et peut-être utile pour vous en ce jour de départ en vacances, une borne de recharge ultra rapide a été inaugurée hier.
Le dispositif est situé à Vézin-le-Coquet, dans la campagne rennaise, et il a été présenté par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Cette station de recharge ultra rapide pour les véhicules électriques est une première, une petite révolution qui risque de se multiplier dans les mois à venir. Reportage de Jean-Michel Decaze.
Aujourd'hui, les propriétaires de voitures électriques qui veulent recharger rapidement leur batterie doivent aller sur l'autoroute ou se rendre dans des réseaux réservés à leur marque. Ces futures bornes, créées par la société NW Joule, seront installées en zone périurbaine et sur les petites routes. Philippe Barbe est ingénieur de l'ultra-rapidité.
Lorsque vous rechargez un véhicule chez vous, ça va vous prendre presque une dizaine d'heures. Ici, ça vous prend une dizaine de minutes. Les batteries des constructeurs automobiles, elles sont prévues pour prendre ce genre de puissance.
10 minutes pour 300 km d'autonomie, c'est le pari des techniciens de ces bornes baptisées e-charge. Le prix du plein d'électricité est fixé à 30 euros sans abonnement, quel que soit le modèle de voiture. Jean-Christophe Cardellué, fondateur de NW Group.
Ces bornes sont accessibles à tout le monde. Il ne faut pas faire partie d'un réseau de tel ou tel constructeur ou de telle association. Vous venez avec votre carte bleue, vous venez avec votre téléphone, vous payez avec un QR code ou sans contact.
L'objectif est d'implanter 2400 bornes d'ici septembre 2024. Elles sont reliées elles-mêmes à une énorme batterie qui se charge en heure creuse sur le réseau EDF. La société garantit une électricité d'origine renouvelable.
C'était le journal d'Elisa Lukavski. Merci beaucoup Elisa. À tout à l'heure, 8h30 dans la matinale, le week-end. Un coup d'œil sur notre météo pour ce samedi et ses départs en vacances. Et ça s'annonce plutôt bien, Karine Durand.
Oui.
ni après les brouillards, la grisaille de la matinée, au cours de l'après-midi, ça va bien se dégager. On aura quand même une ambiance un peu variable sur le nord, partagée entre nuages éclaircis, surtout vers l'est, partout ailleurs. Grand soleil sur l'arc atlantique, l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, jusque sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un peu de vent modéré, Mistral et Tramontane. En Méditerranée, les températures sont deux saisons globalement, au nord avec 15 degrés pour Paris, 15 également pour la pointe bretonne. Elles sont bien agréables par contre sur la côte méditerranéenne. Sous le soleil, le ressenti est très sympathique, notamment du côté d'Ajaccio, avec jusqu'à 24 degrés, c'est le maximum.
Merci beaucoup Karine, place au débat maintenant.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Notre face-à-face à 8h08, très exactement dans la matinale week-end, Guillaume Bigot, politologue, et Denis de Montpion, éditorialiste. Rebonjour à tous les deux. Devinez de qui on va parler aujourd'hui.
D'un certain Eric Z.
Bien vu.
Comme Zorro.
Comme Zorro, ou en tout cas comme celui qui aimante, cette campagne. Il n'est toujours pas candidat, on le rappelle, mais les signes s'accumulent sérieusement. Un nouveau sondage Ipsos pour Le Monde le donne encore une nouvelle fois au second tour de la présidentielle. Et en tournée hier à Rouen, il s'est affiché comme le seul adversaire capable de battre Emmanuel Macron. Le point avec Emma Guessel et on en débat juste après.
C'est la deuxième fois qu'un sondage place Éric Zemmour au second tour de la présidentielle. Cette fois-ci, sur un panel plus large de 16 000 sondés, le polémiste devance Marine Le Pen et se qualifie au second tour face à Emmanuel Macron. Toujours pas officiellement candidat, sa position d'adversaire direct du chef de l'État est pourtant claire.
Marine Le Pen ne peut pas gagner parce qu'elle est enfermée dans une seule type de sociologie. LR ne peuvent pas gagner parce qu'ils sont enfermés dans un seul type de sociologie. Le seul qui peuvent battre Emmanuel Macron, c'est ceux qui allient les classes populaires et une partie de la bourgeoisie. Et donc je suis le seul.
L'électorat potentiel d'Éric Zemmour est idéologiquement très marqué. Toujours selon ce sondage Ipsos, ses électeurs se positionnent à 65% comme étant radicaux ou très radicaux, avec pour principale préoccupation l'immigration et la délinquance. Ceux qui viennent le rencontrer, des convaincus, et ceux qui se laisseraient bien tenter.
Éric Zemmour, c'est vraiment la personne qui est l'extrême contraire de tout ce qu'on peut voir dans tous les médias aujourd'hui, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans les journaux. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui parle aux Français et les Français l'entendent.
Aujourd'hui, je suis venu pour écouter un peu ce qu'il propose. Évidemment, aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que j'ai un peu de conviction pour lui.
Sur la totalité du panel interrogé, 70% des sondés estiment néanmoins qu'Éric Zemmour n'a pas l'étoffe d'un président de la République.
Alors à la question de notre journaliste hier, qui peut battre Emmanuel Macron? Réponse d'Éric Zemmour, je suis le seul. Guillaume Bigot, est-ce que c'est vrai?
Non, parce qu'on est encore trop tôt et qu'il y a des marges d'erreur, qu'en plus les gens qui se prononcent de manière aussi certaine à cette distance de la présidentielle sont des gens qui sont fortement idéologisés. Et donc aussi dans son camp, les gens sont évidemment très idéologisés.
Et ce sont des gens aussi qui sont sûrs d'aller voter, hein, dans ceux qui ont été sondés, même si c'est une très vaste enquête.
Ça appuie mon argument. Néanmoins, oui, bien sûr, l'hypothèse est crédible et il faut mesurer le chemin parcouru entre une candidature un peu, je dirais, à la fois ballon d'essai et une candidature qui avait l'air d'être complètement improbable d'un outsider. On parle maintenant de quelqu'un qui quand même tient la corde pour le deuxième tour. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas certain. En revanche, oui, il est bien parti pour la raison qu'il explique sur le champ sociologique, mais aussi pour une autre raison qui est double et paradoxale. C'est-à-dire qu'il incarne à la fois une demande, ça a été très bien expliqué par la personne qui était interrogée, il est le contraire de tout ce qu'on entend en politique. Donc oui, c'est le petit enfant dans le conte d'Anderson, le roi est nu, c'est-à-dire qu'il dit exactement... Sinon la vérité, en tout cas, il dit ce qu'il voit. Les autres ont un vocabulaire.
Il incarne en tout cas une nouveauté dans le champ politique.
Il incarne, non pas tant que ça, parce que cette nouveauté, si vous voulez, c'était aussi celle d'Emmanuel Macron de venir de l'extérieur, de bousculer le jeu politique. Mais par contre, il y a une combinaison des deux entre ces mots qu'on ne voulait pas entendre, que prononçait seulement le Front National ou le Rassemblement National et qui étaient disqualifiés parce que c'était un Le Pen, une Le Pen, le Rassemblement National, l'extrême droite qui le disait, et en même temps une volonté de bousculer le système. Les deux se superposent maintenant et ça aussi, je crois que c'est quelque chose d'assez puissant.
Denis de Montpion, est-ce qu'il est le seul, comme il le dit, à pouvoir battre Emmanuel Macron?
Bon, en tout cas, comme le dit Robert Ménard, le maire de Béziers, qui rêve d'une union des droites, c'est celui qui, depuis qu'il s'est lancé en tout cas dans sa tournée des grandes villes, eh bien manifeste le plus de volonté d'être président de la République. C'est vrai que quand on regarde une Marine Le Pen à côté, et alors là je ne parle pas des candidats...
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres candidats, en tout cas les candidats déclarés, ne montrent pas l'envie réelle?
Ben, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette espèce de fougue que lui, dans sa façon d'haranguer, de parler aux Français, il y a un ton très direct, mais il n'est pour le moment pas déclaré, n'est-ce pas? Ça se fera peut-être... aux alentours, enfin dans son entourage, on dit que ce serait autour du 15 novembre, avant donc que les Républicains, eux, aient fait un choix qu'ils aient départagé, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et les autres, Ciotti, j'en passe.
Donc on parlerait d'une candidature dans 3 semaines,
c'est oui, ça ? C'est ça. Donc, là, ce qui sera intéressant de voir, c'est si, en effet, sa cote de popularité se maintient, parce que il a été très, comment dirais-je, convaincant sur les questions d'immigration et de délinquance, comme vous veniez de le rappeler. Mais hier à Rouen, il s'est beaucoup exprimé sur une espèce de souveraineté nationale, vous savez, la France qui retrouverait son blason gaulliste, etc. Mais c'est pas voilà, n'est pas De Gaulle qui veut.
Guillaume Bigot, justement,
la situation n'est pas la même, et là-dessus, il aura beaucoup de mal à convaincre.
Et puis, il y a aussi le fait que les Français estiment qu'il n'a pas l'étoffe d'un président à 70%, Guillaume Bigot.
Il n'est pas dans la position, en effet, d'un candidat pour l'instant. Donc, c'est finalement la...
Non, mais là, il va l'être.
La réponse est dans la question. C'est-à-dire qu'on interroge des Français qui, aujourd'hui, ne le voient pas... pour ce qu'il est, pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas candidat. Je suis assez d'accord pour dire que pour l'instant c'est un mécanisme négatif, c'est-à-dire c'est ça manifeste la volonté de rupture, ça manifeste la volonté, le rejet de la classe politique.
Le dégagisme qu'on avait vécu
à la Macron
hein, c'est,
aussi, bien
c'est,
sûr,
c'est similaire.
Quelqu'un qui arrive de nulle part, mais en plus cet effet de dire la vérité sur les questions migratoires, d'insécurité, etc. Moi, je pense que le pire est à venir pour la classe dirigeante, pour une raison simple, c'est qu'en fait, et c'est là où il y a quelque chose de l'ordre de la nitroglycérine dans la candidature d'Éric Zemmour, c'est parce qu'il y a ce côté populiste, ce côté « je dis ce que le peuple a envie d'entendre ». Dans le peuple, il y a aussi les gens qui sont les plus, si vous voulez, mal à l'aise et écrasés par la mondialisation et par les choix qui sont faits.
Mais il y a aussi les CSP+,
précisément, sa force, ça va être ça. Sa force, c'est quand il va passer au programmatique. Parce qu'en fait, il va pouvoir en creux, et les Français vont pouvoir comparer que des chemins, comme dira Heidegger, qui ne mènent nulle part, c'est-à-dire rembourser la dette, ça ne mène nulle part, faire l'Europe, ça ne mène nulle part, continuer l'immigration, ça ne mène nulle part, et ce sont des chemins qui mènent à la catastrophe. Et donc là, des mesures programmatiques, à mon avis, relativement simples et assez crédibles, pourraient enrayer ces pentes absolument dramatiques. Et c'est là où je pense que la classe dirigeante n'a pas fini de manger son chapeau, et que le pire est à venir pour les opposants d'Éric Zemmour, parce que lorsqu'il va articuler des solutions qui, malgré tout, existent, on va voir qu'il existe une différence de niveau intellectuel entre ceux qui prétendent être l'élite et qui, en fait, ne font que n'importe quoi depuis 40 ans.
Je voudrais brièvement qu'on parle, pardonnez-moi, mais le temps passe vite, de la police municipale à Paris. C'était les tout débuts cette semaine. On a vu 154 nouveaux agents sillonner les rues. Ils sont armés, ils ne sont pas armés. Pardon, justement, c'est bien là tout le sujet. Et leur objectif principal, c'est d'apaiser la ville. On a très peu de temps. À quoi sert cette police municipale? Ça fait beaucoup débat. Denis de Montpion, elle est là. Qu'est-ce qu'on en fait?
C'est-à-dire que Anne Hidalgo, maire de Paris,
candidate à la présidentielle,
n'a pas toujours été très à l'aise sur cette question. D'ailleurs, elle a été d'abord hostile à la police municipale, mais surtout, le fait aujourd'hui de revendiquer la possibilité d'avoir 3400 policiers municipaux d'ici à 2026, eh bien, pose quand même une question, parce qu'il existe aujourd'hui à la mairie de Paris une direction de la prévention, de la sécurité et de la protection, qui regroupe 5000 agents. Alors, est-ce que cette police municipale va s'ajouter à ces 5000 agents? Je rappelle quand même qu'une ville comme Paris compte 53 000 fonctionnaires, ce qui est énorme. Est-ce qu'elle va puiser dans ce vivier pour former des gens, en effet, qui deviendraient des policiers municipaux. Là-dessus, c'est la grande inconnue. Alors, elle annonce comme ça que, évidemment, parce que devant la violence qu'on peut constater dans certains quartiers de Paris, il y a un peu urgence. Et si aujourd'hui, les agents, les 154 agents n'ont pas l'homologation pour en effet verbaliser.
Alors parce ce sera le 10 novembre prochain.
Bien sûr, parce qu'il y a eu un problème avec la préfecture dû au Covid, etc. Tout ça a été expliqué. Enfin, c'est quand même un peu nébuleux cette question.
Guillaume Bigot, est-ce qu'il l'a fallait cette police municipale à Paris?
D'abord, ça a échappé à personne que Madame Hidalgo est désormais candidate officielle à la présidence de la République. Donc je pense que cette annonce et le timing de cette annonce n'est pas étranger. Ceci n'est pas étranger à cela. Sachant que c'est intéressant de regarder de plus près, parce qu'elle annonce la création d'une police municipale, certes. D'abord, ils sont 150, ils seront 3500, mais même 3500 à l'échelle de Paris, c'est tout à fait, c'est ce qu'on pourrait appeler du volontarisme de saut de puce, hein, auquel nous ont bien habitués nos classes dirigeantes, mais surtout, ils ne sont pas armés. Et là, ça signifie politiquement quelque chose. Ça veut dire qu'elle court après, en tant que futur chef de la gauche, elle court après la France insoumise, elle court après le ELV, qui veulent, comme vous le savez, une police non armée.
Et puis, il y a un autre problème, c'est le fait que la police municipale va sans doute se chevaucher avec la police nationale.
On suivra ça, évidemment, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à Guillaume Bigot et Denis de Montpion. Denis, je cite votre dernier ouvrage, Docteur La Mort, paru chez Laure Robert Laffont, coécrit avec Paul Marcadji, ancien légiste et expert judiciaire. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. On parle de santé et du retour de la grippe avec Brigitte Millot.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Votre chronique santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte.
Bonjour Isabelle.
Ça y est, c'est la saison de la grippe qui commence. Oui. On s'attend à un millésime, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais en tout cas assez particulier.
Assez particulier, vous avez raison. Alors, la campagne, en fait, elle a déjà commencé, la campagne de vaccination contre la grippe, dans les EHPAD et dans les maisons de retraite, déjà lundi 18 octobre. Ensuite, elle aurait dû commencer la semaine prochaine, mais elle a été avancée. Donc, on a commencé à vacciner vendredi pour les personnes, vous savez, celles qui reçoivent leur invitation à se faire vacciner. Personnes âgées, personnes fragiles, femmes enceintes, soignants, pompiers, tout cela peuvent déjà se faire vacciner depuis hier. Et la campagne normale, entre guillemets, pour tout le monde, sera le 23 novembre.
Pourquoi est-ce que ça a été avancé de 4 jours ?
Parce qu'en fait, on craint un rebond cette année. Ça ne vous aura pas échappé. L'an dernier, pas de grippe. De toute façon, rien du tout.
Il y avait
pas
le Covid. Maladie. Il y avait le Covid, donc on ne pouvait pas tout avoir, c'est ça ?
Surtout, on était masqués, on était confinés. On ne s'approchait pas de l'autre, on se lavait les mains. Donc toutes les maladies, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu de gastro-entérite, il n'y a pas eu de varicelle, il n'y a pas eu de bronchiolite, tout ça, ça a disparu. Donc on craint un rebond parce que notre immunité, nos défenses immunitaires, elles ont été en vacances pendant quelques temps. Donc quand on a été en vacances, on travaille moins bien après. Et donc on a peur d'un rebond épidémique avec
cette twindémique, c'est ça c'est
alors, et en plus, on a peur de l'association. Twindémique, twin ça veut dire jumelle, on a peur des deux infections virales jumelles, et Covid et grippe. Vous imaginez le cocktail en même temps.
Ça peut nous arriver ça?
Ça peut aussi nous arriver, alors c'est les Anglais qui parlent de ça, parce que chez eux, vous savez, c'est le vivre avec le virus, donc malheureusement ils ont beaucoup de cas, donc ils ont très peur que ça arrive, mais chez nous aussi ça peut arriver. Donc il faut être vigilant, et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que cette année, on va vous inviter à vous faire vacciner contre les deux, et contre la grippe et contre le Covid. Une injection dans chaque bras vous sera proposée cette année.
Mais en fait, pour ceux qui seront vaccinés, ok, mais la difficulté, ce sera aussi de faire la différence entre la grippe et le Covid.
Exactement. Alors, grippe, n'oublions pas l'étymologie du mot grippe, ça veut dire saisir brutalement, agripper, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, en fait, ce qui peut permettre un peu de faire la différence, c'est que la grippe, c'est brutal. Tout à coup, vous avez 39 de fièvre, vous êtes épuisé, vous toussez, vous êtes mal, mais ça survient brutalement. En revanche, le Covid, y a des symptômes très variés. On peut avoir une perte de goût, on peut avoir une toux, on peut avoir le nez qui coule. Mais tout ça, ça se fait plutôt progressivement. Et puis, on peut avoir des troubles digestifs. Vous voyez, ça peut permettre de faire la différence. Mais surtout, on a un test. On peut aller faire un PCR.
En cas de doute, c'est ça qu'on
fait tout de suite. Oui, parce qu'en fait, s'ils sont
pas oubliés le test.
Non, sur prescription, ils sont toujours remboursés. Si c'est votre médecin qui vous prescrit un test PCR, il sera pris en charge, il sera remboursé. Donc, en cas de doute, on fait un test, voilà.
Bon, finalement, c'est sans fin parce qu'on va être obligé de remettre le masque, de refaire tous les gestes barrières.
C'est un peu le problème. On risque de se trouver face à des personnes qui vont vous dire « Mais attendez, il n'y a pas eu de grippe l'an dernier, moi je ne veux pas qu'il y en ait cette année non plus, donc moi je veux qu'on continue à porter le masque. » Donc voilà, alors qu'en fait, on a besoin d'être confronté aux virus, aux bactéries, aux microbes pour notre immunité et surtout pour les enfants.
Donc il faut quand même, on y revient, se faire vacciner.
Ah oui, c'est la chance d'avoir deux vaccins, un contre la grippe, un contre le Covid.
Deux pour le prix d'un, je veux dire presque.
Et en même temps.
et des deux bras. Merci beaucoup. C'était votre chronique santé. Merci, docteur Brigitte Millot.
Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
8h30 dans quelques secondes à peine. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la matinale le week-end. Un tour complet de l'actualité avec vous, Elisa Lukavski.
Un homme armé d'un couteau a menacé des policiers hier soir en criant « Allah Akbar » avant d'être abattu. C'était à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Le trentenaire n'était pas connu pour radicalisation, mais pour des faits de droit commun. Une information judiciaire est ouverte. Si le parquet antiterroriste n'est pas saisi pour le moment, il reste informé de l'affaire. Le maire Patrick Chaimovitch s'est rendu sur place hier. On l'écoute. On l'écoutera un petit peu plus tard. La police municipale de Paris, c'est une première semaine test pour elle. Elle est entrée en service mardi. Une police de proximité qui, à peine entrée en vigueur, a affiché quelques limites. Les 154 agents ne sont pas assermentés. Résultat, ils ne peuvent pas verbaliser. Les explications de Régine Delfour et Pierre-François Altermat.
Voilà, le port d'oreillettes est strictement interdit, hein, à vélo. C'est le même code de la route que les voitures.
Promue depuis lundi, Karine Jarros ne peut toujours pas verbaliser les infractions.
Pour l'instant, non. Voilà, on attend notre agrément. Comme vous avez pu l'entendre partout, ça a été un peu rapide. On n'est pas encore assermenté.
Cette police d'ultra-proximité a pour mission de protéger les piétons, faire respecter la propreté, mais aussi sécuriser les rues de la capitale. Équipés de gilets pare-balles, de bâtons de défense, de bombes lacrymogènes et d'une paire de menottes, les agents seront amenés à réaliser certaines interpellations plus musclées, comme nous le confie Abdel, nouvel agent municipal de Paris.
Des flagrants délits, des vols ou des agressions, on est habilité à intervenir. Évidemment, lors de l'interpellation, ensuite, on fait venir un équipage de la police nationale qui, eux, nous assiste.
Les 154 policiers municipaux seront assermentés le 10 novembre prochain.
Marine Le Pen était en déplacement à Bruxelles hier au programme de la candidate du Rassemblement national. Une rencontre avec le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki. Marine Le Pen qui en a profité pour tacler Éric Zemmour, troisième dans les intentions de vote derrière le polémiste. La candidate affirme qu'il ne sera pas au second tour de la présidentielle. Pourquoi ? Eh bien, voici sa réponse.
Ce qui fera qu'il ne sera pas président de la République française et qu'il ne sera pas en situation de l'être, c'est que lorsqu'on aspire à être président de la République française, on aspire à être le président de tous les Français. Et pas seulement de cette fameuse bourgeoisie dont il parle régulièrement et qui semble être sa cible électorale.
Le sport et le football avec une soirée chaotique hier du côté de Saint-Étienne. Des débordements de supporters et des jets de fumigène sur la pelouse ont repoussé le coup d'envoi d'une heure. La rencontre a finalement pu avoir lieu sous haute protection des CRS, menée de deux buts par Angers. Les Verts ont finalement arraché le match nul de partout après des buts de Cazeri et de Nadé au bout du temps additionnel. Saint-Étienne, qui n'a pas remporté le moindre match cette saison, reste lanterne rouge. Son adversaire du soir, Angers, est quatrième.
Complet de l'actualité. On accueille maintenant dans la matinale week-end Mathieu Altermat. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous arrivez avec du lourd, du très très lourd. C'est le retour de Goldorak, fracassant.
J'ai envie de dire musique, tout d'abord, souvenez-vous.
Il traverse tout l'univers.
Mais bien sûr, évidemment, Goldorak.
Qui est-il? D'où vient-il? Lorsqu'il apparaît en 1978 sur les télés français, les enfants adorent. Les parents détestent, c'est donc une révolution culturelle dans les cours de récréation, évidemment. Alors, pour la plupart de nos concitoyens âgés entre 40 et 55 ans, Goldorak est le plus grand héros de tous les temps. Je sais qu'en disant cette phrase, je peux passer pour un illuminé un petit peu, on me dit « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Mais sauf que les faits me donnent raison, la bande dessinée qui vient de sortir, inédite Goldorak en France, est numéro 1 des ventes de bande dessinée aujourd'hui dans notre pays, et numéro 6 de tout le marché du livre, 165 000 exemplaires de mise en place qui partent comme des petits pains, c'est le gros carton, Goldorak est de retour au 21e siècle.
C'est une sortie purement française, racontez-nous un petit peu la petite histoire.
La petite histoire, le chantier a commencé en 2016, des années de réflexion de la part des auteurs, des dessinateurs, et surtout il a fallu qu'ils obtiennent l'autorisation du créateur de Goldorak, Go Nage, qui est le créateur japonais qui a dit oui, un travail d'équipe, il faut citer les noms parce que c'est une réussite exceptionnelle, Xavier Dorisson, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Santanas et Johan Guillot, ils sont plusieurs, et le scénario est très malin. Il nous replonge des années après le dernier épisode dans la série, souvenez-vous, quand Actarus avait vaincu...
Attendez, il va falloir remonter loin quand même dans les souvenirs, mais enfin...
Mais souvenez-vous, Actarus a vaincu contre les méchants de Vega et repart sur sa planète avec sa sœur Phénicia pour y installer la paix. Et là, on retrouve, des années après... tous nos héros qui ont bien changé. Actarus est dépressif au dernier degré, il ne se rase plus, mais je ne vous spoil pas. Alcor a fait fortune, mais s'ennuie dans ses buildings. Vénitia est assistante en interne médecine. Bref, il y a une ambiance un petit peu dépressive. Les dessins et le développement psychologique des personnages sont absolument jouissifs. On a une nouvelle perspective bien plus subtile qui nous est offerte, parce que nous sommes devenus adultes et nous retrouvons notre passion passée.
Alors justement, à qui s'adresse ce livre? C'est pour les jeunes, pour les adultes? C'est typiquement la nostalgie de retour.
Bah, j'ai envie de vous dire que c'est pour les vieux jeunes comme moi. J'ose pas le dire comme nous.
Non, ne le dites pas. Oui.
Je le dis pas. En fait, c'est comme retrouver tous ses copains d'école en 2021 et leur demander « Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années ?» Mais avec une belle mélancolie addictive derrière, vous voyez, des failles assumées. Moi, j'ai entendu dire, un ami que je connais, à la fin de la lecture de la bande dessinée, il a séché ses larmes, et pour se requinquer, il a plongé sur son lit en criant « Métamorphose !» Bon, je vous avoue, c'est moi, en fait. Goldorak, go, l'aventure continue, musique.
Merci Mathieu, comme disait si bien Actarus, on est toujours heureux de revoir un être aimé apparemment, ça a l'air d'être le cas. Et oui, une citation d'Actarus ce matin, Goldorak, donc c'est un gros carton littéraire de la rentrée. Demain, vous nous parlerez de deux figures de l'Amérique qui écrivent un livre à quatre mains, il s'agit d'Obama et de Springsteen. Merci beaucoup. Dans quelques instants, juste après votre météo, vous retrouvez Jean-Pierre Elkabbach, son invité ce matin, Alexandre Najjar, écrivain, avocat libanais, il publie chez Plomb le syndrome de Beyrouth.
La matinale week-end, CNews Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach.
Bonjour à tous. La tragédie d'un Liban oublié. Merci d'être arrivé cette nuit, à minuit, de Beyrouth, pour nous raconter. Bienvenue, Alexandre Najjar. Vous êtes un avocat exigeant et un écrivain reconnu. Le Liban, on a l'impression qu'il s'enfonce dans le désespoir et peut-être même la misère. Vous manquez de tout.
Oui, c'est vraiment la catastrophe à tous les niveaux. Les écoles aujourd'hui ont des problèmes très graves. Les hôpitaux manquent de tout. L'insuline, par exemple, est pratiquement inexistante. Les pharmacies sont pratiquement vides. Les produits alimentaires, il y a une pénurie de plusieurs produits.
Vous produisez plus ou...
Non, en fait, on n'exporte plus parce que le problème, c'est que aussi les avoirs des déposants libanais sont gelés dans les banques. Ils ne peuvent plus transférer de l'argent. Donc l'électricité, c'est une calamité, une catastrophe.
C'est-à-dire vous vivez dans le noir pratiquement.
Ah oui, alors que c'est un pays grand comme la Gironde, on n'est pas fichu d'assurer l'électricité à la population.
J'ai vu que vous éclairez quelquefois la nuit avec la lumière des portables.
Ah oui, bien sûr. Et surtout en été, les gens dormaient sur les toits, au balcon, parce qu'ils n'avaient pas de climatisation. La pénurie d'essence également, il y a des files interminables devant les stations d'essence. Quelquefois, les automobilistes abandonnent leur véhicule pour revenir le lendemain. Donc on voit des files interminables de voitures
parce que les
stations sont fermées parce qu'elles n'ont pas d'essence. Donc c'est vraiment un état vraiment catastrophique à tous les niveaux, donc bancaire, financier, humanitaire,
parce que les hôpitaux ne peuvent pas
au niveau de la santé.
Et beaucoup
de médecins d'ailleurs ont abandonné, ont quitté le pays parce que aujourd'hui avec la dépréciation de la livre libanaise, avec l'inflation galopante, aujourd'hui beaucoup de médecins sont partis chercher ailleurs, enfin travailler ailleurs, aussi bien en Europe que dans les pays arabes. Et donc vraiment, je pense que dans l'histoire du Liban, on a fêté le centenaire du Grand Liban l'année passée, je pense que dans l'histoire du Liban contemporain, jamais on a connu une crise aussi grave.
Et pourtant, vous en avez connu. Ah oui. Des guerres civiles, des assassinats de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, etc.
Bien sûr.
Donc vous dites c'est une crise.
Ah oui, non, mais ça, économiquement, au niveau financier, les avoirs gelés des déposants, la crise des hôpitaux, des écoles. Donc vraiment, je crois qu'il y a des situations quelquefois vraiment tragiques. Et on a beau avoir cette volonté de toujours résister, les Libanais sont connus pour cela. Mais il y a un moment où vraiment a trop tiré sur la corde, elle a fini par
rompre. Vous êtes en train de nous dire que la vie quotidienne, c'est devenu un cauchemar au Liban, oui, que le peuple souffre et qu'il est peut-être entre la résignation et la colère.
Bien sûr, mais aussi, il faut savoir que le salaire minimum aujourd'hui est de 30 euros.
30 ?
30 euros. Aujourd'hui, alors que les 20 litres d'essence, c'est à peu près 15 euros. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui gagne le salaire minimum, s'il remplit deux fois de 20 litres d'essence, son salaire est parti. Donc c'est vraiment, il y a...
Comment il se débrouille ?
Voilà, c'est ça. C'est une crise vraiment tragique. Maintenant, le Libanais a toujours cet orgueil, cette volonté de résister, mais il faut se rendre à l'évidence. On est aujourd'hui dans une des phases, les pires phases de l'histoire du pays.
Alexandre, vous dites que vous manquez de médicaments. J'ai vu que la Fondation Sanofi a envoyé directement aux hôpitaux, pas au gouvernement, parce que... Hein, aux hôpitaux... Des médicaments pour les enfants cancéreux.
Tout à fait.
Et est-ce que vous avez eu des vaccins ?
Quelques oui. Enfin, il y a eu aussi des vaccins, mais aujourd'hui, ce qui manque, par exemple, à part l'insuline aussi, le lait pour enfants. Le lait manque cruellement et beaucoup de familles font le tour des pharmacies pour essayer de trouver le lait habituel de leurs enfants.
Donc, c'est un pays qui vit avec la bougie.
Oui. Beaucoup de gens maintenant sont revenus. Vous savez, pendant la guerre de 75 à 90, on a vécu des moments comme cela, mais c'était la guerre. Aujourd'hui, en temps de paix, on espérait pouvoir vivre de façon normale. Et là, on se rend compte qu'on est devenu, on vit des moments pires que ceux que nous avons expérimentés pendant la guerre.
Pendant longtemps, vous n'avez pas eu de gouvernement. Là, vous avez un gouvernement depuis quelques semaines. Il paraît, comme ça, impuissant à reconstruire l'État et à répondre aux besoins des gens dont vous parlez. Et dans votre livre de fiction et à la fois d'histoire, Alexandre Najjar, vous racontez, à travers une belle héroïne qui s'appelle Amira, les attentats, l'histoire du Liban, et avec en même temps, cela va jusqu'à l'explosion du port de Beyrouth.
Tout à fait.
Qui reste comme une blessure au cœur du Liban. Il y a eu combien de morts ? 200 à peu près ?
Plus de 200 morts, plus de 6000 blessés. Et des quartiers entièrement détruits.
Des quartiers blessés légers, graves.
Il y a de tout. J'ai un ami médecin qui a perdu ses yeux. J'ai des gens des amis qui ont perdu qui ont beaucoup de difficultés à marcher, des gens qui ont vraiment des blessures très graves, sans compter les morts. Il y a eu des pompiers également qui ont été dépêchés sur les lieux sans les avertir de ce qu'il y avait. Et donc ça a été aussi tragique pour...
Et il y a un juge, vous m'avez dit qu'il s'appelle Bitar, le juge Bitar.
Tarek Bitar.
Il essaie d'enquêter, il est devenu une sorte de héros national.
C'est un héros national parce qu'il...
Il essaie d'enquêter.
Il essaie d'enquêter, mais le problème, c'est que beaucoup de gens, disons, de partis, essaient de contrecarrer sa mission. Il est tout le temps mis en accusation. On met en doute sa probité, son appartenance, ses allégeances politiques. On dit que son enquête est politisée. Et lui, bon, il s'acharne, mais il est vrai que autour de lui, l'étau se resserre.
Oui, il est empêché d'enquêter. Il est menacé de mort. Et cette semaine, on parle d'incidents, j'ai envie de dire de violence, parce qu'il y a eu des morts à Beyrouth.
Il y a eu 7 morts et à peu près une trentaine de blessés.
Provoqué
en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ce juge a convoqué des personnes qu'il considère comme impliquées, du moins par négligence dans cette
explosion. Y compris des ministres.
D'anciens ministres. Et tout de suite, il y a eu un tollé des proches de ces ministres-là qui ont d'abord manifesté pacifiquement, mais malheureusement, ça a dégénéré. Et il y a eu donc des éléments armés qui ont débarqué dans les quartiers donc de la capitale. Il y a eu donc des tirs de roquettes, de RPG. Et donc là, on s'est retrouvé pendant la période de la guerre.
C'est-à-dire qu'à tout moment, le Liban peut retomber dans la guerre civile.
Le problème, c'est que cet équilibre est tellement fragile et qu'il y a tellement de personnes ou de partis qui essaient de jouer avec le feu qu'on a toujours peur que des incidents pareils ne dégénèrent et ne nous ramènent à une nouvelle guerre civile comme en 75.
Et on ne connaîtra jamais la vérité sur la catastrophe.
Moi, je pense qu'il faut connaître la vérité. La vérité est un droit et un devoir. Et je crois qu'aujourd'hui, les familles des victimes, les Libanais, les Béroutins comme moi, les Libanais en général, ont le droit de connaître la vérité et la justice a le devoir de nous la donner.
Qui cache ? Qui a intérêt à cacher ?
Moi, je pense que ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce qui est apparent, n'est pas la vérité. La vérité, il faut aller en profondeur. Il y a encore une enquête qui est menée. Il y a aussi l'assistance de plusieurs pays qui a été requise. Et je pense que...
Qui n'est pas accepté. Mais vos soupçons personnels à vous, Maître Najjar.
Moi, je crois qu'il y avait quelque chose dans ces entrepôts et que cette théorie d'un soudeur, d'un soudeur qui aurait mal... une opération de soudeur qui aurait mal tourné, n'est pas du tout convaincante. Moi, je suis convaincu qu'il y a un attentat ou une attaque qui a été faite et qu'il y avait là des explosifs et des nitrates d'ammonium, dont il faut savoir aussi, on se demande aussi à quelle fin il a été utilisé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui existait au départ, à peu près 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, et lorsque l'explosion a eu lieu, il y avait beaucoup moins, on parle de 500 peut-être tonnes. Donc, sont passées.
Et votre soupçon ?
Elles ont été utilisées à des fins terroristes ou pendant la guerre de Syrie. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. L'enquête est en cours. On respecte évidemment le secret de l'instruction. Mais ce que, moi, mon sentiment, c'est que ce n'est pas du tout cette explosion, une des plus importantes de l'histoire, n'est pas le fruit d'un accident banal. Il y a eu des négligences criminelles. Des négligences criminelles. Il y a des gens qui ont fermé les yeux sur ce qui s'est passé. Et mon sentiment, c'est que quelque chose de grave et un acte qui a déclenché cela.
Vous parlez de la situation économique, etc. Mais d'habitude, les pays arabes, ils investissent, ils financent, ils sont là chez vous. Et aujourd'hui ?
Nous, les pays arabes ont toujours été proches du Liban, ils ont toujours investi, mais là, la présence du Hezbollah au gouvernement et dans le pays, la manière dont ils gèrent les choses, fait que les pays arabes aujourd'hui refusent catégoriquement d'aider le pays, bien sûr, pour des raisons politiques.
Parce qu'il y a le Hezbollah influencé, les chiites influencés. Voilà. Le président Macron, il s'est rendu à deux reprises à Beyrouth. Il est descendu dans les rues, il s'est promené, etc. Et il a promis l'aide de la France contre des réformes. Elles n'ont pas lieu.
Non, les réformes n'ont pas eu lieu. Même la Banque mondiale également a promis des réformes. Mais le problème, c'est que tant que ce gouvernement est paralysé, en partie aussi à cause de l'enquête du port, parce qu'au sein du gouvernement, certains ministres ne le veulent pas. Donc tant que ces réformes n'ont pas lieu, les aides ne vont pas venir. Les pays arabes, comme vous l'avez dit, ne vont pas venir. Donc le problème, c'est que la crise dont on a parlé tout à l'heure n'a pas de solution tant que les aides ne vont pas venir et les aides ne viennent pas s'il n'y a pas de réformes. Donc c'est une quadrature du cercle.
Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas surestimé les politiciens du Liban en croyant qu'ils allaient trouver des solutions ? Est-ce qu'il n'a pas été naïf ?
Je ne dirais pas naïf, mais il a peut-être accordé sa confiance à des hommes politiques qui ne méritaient pas du tout cette confiance, qui ont déjà fait leur preuve en matière de corruption.
C'est-à-dire clientélisme, corruption, il faut dire. Organisation confessionnelle, marché noir, il y a tout.
Oui, bien sûr. Et le problème, c'est qu'avec cette classe politique-là, on ne peut pas reconstruire le pays. Et c'est pour cela que les élections qui sont fixées à fin mars sont importantes, parce que le changement est nécessaire. Je pense que les 50% de Libanais qui, lors des dernières élections, sont restés chez eux, ont le devoir aujourd'hui de voter pour de nouvelles têtes, pour de nouveaux...
Oui, mais ils vont empêcher les élections.
C'est certain que certains partis aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que les élections aient lieu parce que, en fait, cette mafia au pouvoir veut conserver ses acquis. Et en même temps, il y a des partis qui ont beaucoup perdu en termes de popularité et qui ne souhaitent pas perdre les élections.
Vous savez naturellement que les Français aiment le Liban et que la France aide à travers Emmanuel Macron, aide pour les écoles. Et ça passe par les ONG plutôt que par les gouvernants, dont vous dites à quel point ils sont corrompus. Mais c'est une aide qui est utile.
Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le Liban est l'un des pays francophones les plus importants. Et aujourd'hui, si les écoles francophones n'étaient pas aidées et devaient fermer leurs portes, ce serait une catastrophe, non pas pour le Liban seulement, mais pour la francophonie en général.
Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de nous raconter le dépérissement et presque une mort lente possible du Liban ?
On n'en est pas loin, malheureusement, mais il faut garder l'espoir. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste et je pense que nous devons rester, se battre pour ce Liban que nous aimons.
Qu'est-ce que vous appelez le syndrome de Beyrouth, qui est le titre de votre livre ?
Ce syndrome de Beyrouth, c'est cette résilience, ce Libanais qui toujours encaisse des coups et se redresse. Mais je pense que cette résilience, ce syndrome-là, est un poison. Parce que le fait de toujours encaisser les coups et se relever sans rendre les coups, sans vouloir changer les choses, fait que nous sommes... c'est une sorte d'anesthésie qui nous empêche de changer les choses.
Beaucoup veulent quitter le Liban en attendant des temps meilleurs, l'exil. Il y en a aussi d'autres qui sont partis parce qu'ils ont les moyens de partir. Ils vivent en France, en Suisse, aux États-Unis ou dans les pays arabes. Pour Amira, votre héroïne, elle dit « Vivre au Liban, c'est être debout sur la paume d'un diable ».
Oui, on dit en arabe « à la kaf afrit ».
Pas de frites, comment ?«
Afrit
». La justice, elle résiste encore. Et c'est pour ces raisons, Maître Najjar, que vous allez vous présenter dans 15 jours pour essayer d'être... le bâtonnier des avocats de Beyrouth pour utiliser le moindre pouvoir ou de responsabilité que l'on a, parce que c'est un devoir. C'est un devoir. Mais pourquoi vous restez, vous, là-bas ?
Parce que si on abandonne tous le navire, à qui va-t-on le laisser ? On a le devoir de rester dans ce pays. Aujourd'hui, si je me bats aussi, c'est parce que notre justice est menacée et que nous devons redresser la barre. Un pays, un état de droit sans justice n'est pas un état de droit. Donc nous devons...
Bonne chance. Voilà. Bonne chance. Merci d'être venu. Vous êtes arrivé à minuit de Beyrouth.
Oui, je repars tout à l'heure.
Merci d'être venu pour nous. C'est un témoignage qui est une marque de confiance en la France. Comme un appel, j'ai envie de dire un geste de combat. Merci.
Merci.
Merci beaucoup Jean-Pierre Alcabache, merci à vous Alexandre Najjar. Et demain Jean-Pierre, vous recevrez le juge Édouard Durand, co-président de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
Il a beaucoup à dire.
Et il y a beaucoup à dire effectivement. Excellent samedi à tous, on se retrouve demain dès 7h pour une nouvelle matinale week-end.
La matinale week-end, CNews Europe 1, Isabelle Moreau.